François Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Les grandes voix du samedi en débat jusqu'à 19h. Laetitia Krupa, journaliste politique, est avec nous. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de communication politique, président de MCBG Conseil également. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Wendy.
Bonsoir Wendy.
Bonsoir
à tous.
Wendy.
Le gouvernement s'emploie ce week-end à rattraper le retard en matière de vaccination. On en parlait à l'instant. Il met aussi la pression sur les soignants. Opération tous azimuts, doses débloquées en urgence. L'action, la communication pour tenir un objectif ambitieux. 30 millions de Français avant l'été, on va y venir. À la une aussi, l'offensive judiciaire de Nicolas Sarkozy, la télévision comme outil du tribunal à la tribune. Nous parlerons aussi dans ce paysage politique au sens très large d'Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Les agences régionales de santé ont diffusé le message venu du gouvernement. Coup d'accélérateur pour la vaccination ce week-end à Paris, en Ile-de-France. Nous étions dans les Hauts-de-Seine il y a un instant avec le docteur Jean-Paul Hamon. Le gouvernement qui ressort l'artillerie lourde pour nous montrer que la cadence s'accélère. Alors on a les doses AstraZeneca, on a le déblocage de 50 000 doses en France de Pfizer. Laetitia, tout ça semble bien rodé. En tout cas, les projecteurs sont braqués sur cette opération ce week-end très clairement.
J'ai envie de vous répondre, Wendy, avec une phrase. Vous êtes gentil, hein, mais tant qu'il y a des vaccins dans le frigo, je ne reconfinerai pas les gens.
Ça me dit quelque chose, ça. C'était Emmanuel Macron,
dit ça
très
Emmanuel
en colère.
Emmanuel Macron, oui. C'est la phrase peut-être la plus importante de la semaine, alors qu'elle est dite en off, censément être en off, c'est-à-dire qu'elle est dans l'intimité du Conseil de défense sanitaire. Il faut expliquer effectivement aux auditeurs que off se dit off the record, ça veut dire qu'il n'y a pas de journaliste, mais que l'information fuite ensuite, c'est-à-dire que c'est une information BFM qui a été reprise par tous les médias.
Oui.
C'est donc la posture d'Emmanuel Macron qui est très claire, c'est-à-dire qu'il va contre la doxa médicale et qu'il ne veut pas reconfiner parce qu'il met l'accent sur la campagne de vaccination. À partir du moment où on change de doctrine, bien sûr qu'en communication, en termes d'image, il faut le montrer. Mmh. Il faut que les Français comprennent que non, finalement, la campagne n'est pas au ralenti puisqu'il y a énormément de critiques sur cette campagne de vaccination à juste titre. Si on regarde quantitativement le nombre de Français vaccinés, c'est vrai que c'est quand même, pour l'instant,
puis,
on est à la traîne.
La difficulté d'obtenir un rendez-vous vaccinal. Ouais.
Voilà, donc ce week-end, déploiement sur le terrain de ministres, images à gogo pour montrer que c'est cette politique-là qu'on a choisie.
Oui, mais pardon, ne demandez que ça, que le calendrier s'accélère.
J'allais vous le dire, on est en concordance parfaite avec les attentes très exigeantes de l'opinion publique, quelque soit la catégorie d'âge. On a reposé la question d'intention de vaccination. Wendy, ça a monté de 8 points. L'opinion publique est prête. Elle veut, elle se dit, elle a compris que la vaccination, c'est le sésame et le retour à une vie normale. C'est ce qui explique ce qu'on se disait la semaine dernière sur ce pass vaccinal, alors qu'on est ce pass sanitaire, ce passeport, alors qu'on n'est pas du tout dans le tempo, mais cette entrée dans l'agenda politico-médiatique. Et il y a presque un Français sur deux qui y est favorable. Donc l'opinion publique a bougé, l'opinion publique est prête. Et c'est clair que, plus que jamais, le gouvernement a un risque réel d'opinion si cette lenteur, si cette torpeur, si ces dysfonctionnements en termes de prise de rendez-vous. On a vu Emmanuel Macron, dans nos enquêtes récentes, progresser chez les jeunes et être en difficulté réelle dans sa base,
oui,
chez les personnes âgées. Pour la première fois depuis longtemps, il était en dessous chez les vieux par rapport aux chez les personnes âgées, pardon. Soyons,
merci,
soyons
oui,
polis, parce qu'on est tous le vieux de quelqu'un.
Ça, c'est vrai.
On est tous le vieux de quelqu'un. On a vraiment vu que l'opinion publique est prête. Et je pense que la phrase en off, comme le dit Laetitia d'Emmanuel Macron, peut faire sens chez les Français et peut réactiver l'acte lourd il y a maintenant 5 semaines, ce refus du reconfinement qui a largement bénéficié à l'exécutif, quand bien même la gestion de la crise sanitaire, pas la gestion économique, mais la gestion sanitaire et vaccinale, n'est soutenue que par à peine un gros tiers des Français.
Ces doses qui sont dans le frigo, il en parlait chez Jean-Jacques Bourdin, Olivier Véran, vous allez réagir juste après Philippe Moreau-Chevrolet.
Il y a 400 000 doses du vaccin AstraZeneca livrées aux hôpitaux pour vacciner les soignants, qui sont prioritaires, mais aussi les pompiers, les ambulanciers, les aides à domicile, et que ces doses n'ont toujours pas trouvé preneur suffisamment vite.
Bon, voilà, c'est un mal pour un bien. On récupère ce qui devait être attribué aux soignants pour quelques citoyens, 400 000, qui n'en pouvaient plus d'attendre, Philippe Moreau-Chevrolet.
Oui, alors c'est une situation assez particulière, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas assez de doses de vaccins pour vacciner à la hauteur de ce qu'on voudrait. Contrairement à Israël, par exemple, à d'autres pays qui sont cités en exemple, on n'a quasiment pas de ressources, enfin, on n'a pas tellement de matelas qui seraient confortables derrière. Donc ça, c'est un premier problème. On n'a pas négocié suffisamment de doses au niveau européen. Donc effectivement, on répartit la pénurie différemment. Après, il y a deux façons de voir les choses. Soit on est optimiste et on considère que ça y est, le gouvernement se réveille enfin pour vacciner et donc il part dans la bonne direction.
Oui.
Soit on est comme Laurent Alexandre aujourd'hui sur Twitter qui disait c'est de la vaccination escargot, on est la lanterne rouge de l'Europe, ce qui est vrai en termes de chiffres, on est très loin derrière les voisins, même si tout ça se tient dans un mouchoir de poche. Donc il y a plusieurs façons de voir les choses. L'exaspération de la population, c'est une exaspération pour le retour à la vie normale, entre guillemets. Et chaque jour, en fait, où l'exécutif donne l'impression de ne pas savoir comment y arriver, ou de ne pas y arriver tout court, est un jour qui coûte cher, en fait, pour tout le monde, pour le pays, mais aussi pour l'exécutif. Je voudrais revenir sur la petite phrase de Macron.
Oui.
Elle est quand même très, très étonnante, cette petite phrase. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, tant que les vaccins seront au frigo, ben moi, je ne confinerai pas, en gros. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, il reproche aux soignants de ne pas aller assez vite, alors qu'on sait tous que ce n'est pas les soignants qui sont en cause dans le retard de la vaccination. Et ça veut dire qu'on va punir les soignants, on va punir les Français parce qu'il n'y aurait pas assez de
Bah
vaccination
en tout cas,
faite.
on
Je pense
rejette,
qu'il y
on
aura,
rejette
il y
la
aura,
charge,
il y
la
aura, enfin,
responsabilité.
je
Frédéric
pense
David.
de la part d'un chef de l'État en
Non,
exercice, c'est extrêmement étonnant
je
parce qu'on a
pense.
l'impression qu'il menace les soignants
Ah,
qui sont en
je
première
fais pas
ligne
de.
depuis un an et qui ont eu beaucoup,
Alors.
beaucoup de morts au service de cette cause.
Ouais,
Alors,
comment l'interpréter? Je
j'entends ce
pense
que
que
vous
Frédéric
dites,
David, elle ne s'y
Philippe.
accrue pas.
J'entends ce que vous dites, Philippe, mais je ne fais pas la même analyse du tout. Les 400 000 doses restantes, c'est les soignants qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Et alors qu'on a une stratégie claire et une opinion publique qui est extrêmement homogène sur ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire l'intention de se faire vacciner, retrouver la vie normale, ce qui peut être un enclencheur d'optimisme, on voit déjà dans nos enquêtes qualitatives que le pessimisme absolu dont on parlait au mois de janvier, est-ce que c'est le retour des beaux jours? Commence un petit peu à s'effilocher. Mais il y a, je dirais, un véritable brouillage en termes de communication. C'était votre débat tout à l'heure, Wendy,
C'est ça,
avec
voilà.
ces soignants que les Français aiment,
Oh,
que les
oui,
Français
bien
respectent, que
sûr,
nous avons
évidemment,
tous
qu'on a
applaudi.
applaudi.
Mais il y a, je pense, une véritable incompréhension. Et l'exemple qui a été donné par M. Jean-Paul Hamon de l'hépatite B, alors qu'on connaît les risques sur la sclérose en plaques, c'est quand même quelque chose qui ne pourra pas ne pas alerter, voire interloquer l'opinion sur ce refus de se
C'est
faire
sûr.
vacciner.
Le même docteur Jean-Paul Hamon, qui relativisait largement ce chiffre de 400 000 euros, il avait même l'air de le remettre en perspective et de considérer qu'il n'y en avait pas autant de ces doses qui devaient être attribuées qu'elles arrivent d'autre part. Le tiers pas. Comment on l'interprète, ce renversement de la charge de la culpabilité sur les soignants? C'est comme ça que certains l'apprennent, en tout cas, cette petite phrase chez les soignants.
C'est anormal. Alors moi, cette petite phrase, pas du tout. Moi, il me semble que c'est juste pour expliquer que la stratégie du zéro Covid n'a pas été choisie.
C'est ça.
Et qu'aujourd'hui, l'exécutif choisit la vaccination qu'il tente de faire voilà, massivement. En tout cas, c'est l'objectif, qu'elle soit massive et que de plus en plus, on ait cette immunité collective. On a bien compris, c'est juste un changement de doctrine. Ça n'a rien à voir avec les soignants. Le poids sur les soignants, ça a été effectivement donné par Olivier Véran jeudi soir, lors de la conférence de presse, et où il a dit quand même à plusieurs reprises qu'effectivement, en tant que soignants, ils avaient une responsabilité, qu'ils ne comprenaient pas que des soignants refusent de se faire vacciner et qu'en termes d'exemplarité, vous comprenez bien, Wendy, qu'un soignant refusant de se faire vacciner donne quand même un signal très fort, très négatif aux patients. Enfin, si on ne fait plus
Alors,
confiance à son
ouais,
médecin
si
direct,
je
à son
voudrais intervenir
soignant,
si c'est possible.
c'est
Philippe
très compliqué.
Rochevrolet, allez-y.
Oui, sur l'exemplarité, je voudrais quand même, enfin, c'est un tout petit peu l'hôpital qui se moque de la charité quand même. Depuis des mois et des mois et des mois, on demande aux politiques d'être exemplaires. Et jusqu'à très récemment, ils nous expliquaient qu'un dîner de travail dans un lieu
Non
clos,
mais.
sans masque, à plus de 10 personnes, c'était possible.
Non mais.
Donc l'exemplarité, elle doit exister
Non
partout.
mais l'exemplarité.
Reproche aux soignants de ne pas être exemplaires alors que des dizaines de soignants sont morts depuis le début de cette crise, qu'ils sont épuisés 24 heures sur
Mais
24
non,
à
mais c'est
soigner
pas
des
ça,
gens.
c'est la
C'est une
différence
maladie
envers le
mortelle.
Si je puis me permettre,
Ça n'a
Philippe,
rien
vous
à
êtes un
voir.
cynisme.
Frédéric David,
Vous
non,
êtes
ça n'a
un,
rien à voir.
Philippe, pardon de vous dire ça,
Non,
mais vous êtes
c'est
un
un
petit peu
cynisme
à côté de la
épouvantable.
plaque. La logique d'exemplarité,
Non, je suis
c'est
désolé.
pas une logique
On ne
entre
va
les
pas de,
patients
reprocher
et
aux
le personnel,
soignants
pas
Attendez,
les
attendez,
patients,
attendez, Frédéric David, allez-y.
Je disais que la logique d'exemplarité, c'est pas une logique homothétique entre celle des soignants et celle du personnel politique. On avait bien parlé de cette absence d'exemplarité du côté du personnel politique.
Oui.
J'avais évoqué Bonaparte au pont d'Arcole et non pas Gamelin derrière la ligne Maginot. Là, l'exemplarité, c'est vis-à-vis de l'opinion publique. On connaît la confiance qu'ont les Français vis-à-vis des soignants. Il y a bien sûr toute une série de raisons et bien sûr, ça n'empêche pas le sacrifice et les soignants qui ont été au front pendant le premier confinement et pendant le deuxième. Il y a eu plus de morts au deuxième confinement que pendant le premier, mais l'exemplarité, là, il y a vraiment un problème de brouillage et ça pourrait faire hésiter des Français de voir que la première ligne, en plus ayant une confiance absolue, hésite à se faire vacciner. Là est le problème.
D'accord, d'où le plaidoyer, vous allez réagir, Laetitia Krupa. Attendez, Philippe Morgerlet. Oui. D'où le plaidoyer, je voudrais vous le faire écouter, de François Chaste sur BFM. Il est président honoraire de l'Académie de pharmacie. Écoutez-le.
Lorsque l'on veut être soignant, on se fait vacciner pour, vous l'avez rappelé, diphtérie, tétanos, polio, tuberculose et hépatite B. Eh bien, on pourrait exiger que pour exercer un métier soignant, il faille être vacciné. On ne pouvait pas l'exiger auparavant, on n'avait pas les vaccins. Maintenant, on les a, il faut y aller.
Pour que la contamination au Covid ne devienne pas, qu'elle est en train de s'installer, la première cause d'infection nosocomiale à l'hôpital. C'est quand même pas possible, ça, Laetitia Krupa.
C'est d'ailleurs sur la table, Wendy, c'est sur la table de l'exécutif, puisque selon les échos, Emmanuel Macron envisagerait de rendre obligatoire la vaccination des soignants. Donc c'est une question qui en tout cas est en train de se poser au sein du pouvoir. Est-ce que oui ou non nous la rendons obligatoire? Et on comprend bien qu'en termes d'image, vous avez raison Frédéric, quand on voit un soignant, mais après ça n'a rien à voir avec leur mettre la culpabilité sur les épaules. Il y a aussi un énorme problème de communication. Si on avait fait cette grande campagne de communication pour expliquer en toute transparence ce qu'était un vaccin, ARN, à quoi ça marchait, en dehors des médias, parce que nous on en discute tout le temps, mais les gens ne sont pas captifs de nous, journalistes, de nos médias, c'est pas vrai. Il fallait une grande campagne publique, d'affichage, des spots télé. Le gouvernement va en lancer un spot télé sur la vaccination, Wendy. Non, mais
un an après.
Allô, j'ai envie de dire, pour paraphraser. Oui. On est au mois de mars. Ils vont lancer un spot télé sur la vaccination un an après. Mais c'est avant qu'il faut le faire, puisqu'il faut lever la défiance. Pour lever la défiance, il faut informer. Pour lever la défiance, il faut donner toutes les informations. Il faut éclairer le grand public. Et ensuite, on prend un avis. Sinon, on laisse tous les autres
moyens
de s'informer.
Mais il faut tout dire. Il faut tout dire, Philippe Moreau-Chevrolet. Dire aussi qu'aujourd'hui, le vaccin ne prémunit pas d'une contamination d'une personne vers l'autre. Elle amoindrit les effets du Covid. Elle nous empêche d'en mourir, ce qui est quand même énorme. Et à titre individuel, ça n'enlèvera rien à la nécessité de respecter les gestes barrières. C'est pour le bien collectif. Voilà ce qu'a dit Olivier Véran dans un esprit presque républicain, Philippe Moreau-Chevrolet.
Mais sur le fait que la vaccination soit pour le bien collectif, je pense que tout le monde est complètement d'accord. Je pense que les soignants qui se prennent des cas Covid très très lourds depuis le début sont entièrement d'accord avec le fait que effectivement. Alors sur la contagiosité, si on est en train de, là il faut avoir quand même conscience des bonnes nouvelles parce qu'on parle beaucoup des mauvaises et c'est un peu une déformation professionnelle quasiment. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles sur la contagiosité, si le vaccin. On commence à avoir des études qui montrent que le vaccin diminue la contagiosité. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut enlever son masque, mais ça veut dire que les réunions en famille, les gens qui sont vaccinés, surtout les personnes âgées, peuvent commencer à respirer, se sentir mieux et savoir qu'elles ne contamineront pas nécessairement les autres. Les études vont dans ce sens, donc c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle. Après, sur la vaccination, on a loupé le coche, Laetitia a entièrement raison. Mais il faut savoir qu'au début de la campagne de vaccination, le président de la République était le premier à dire qu'on ne savait pas très bien ce qu'il y avait dans ces vaccins. Donc on est parti du mauvais pied. Alors
oui,
maintenant, on va dans l'autre extrême.
On l'a malmené.
C'est très bien. Bravo, fantastique. Après, si la vaccination doit être obligatoire pour les soignants, il y a quelque chose qui s'appelle le pouvoir, qui permet de prendre des décisions, qui permet d'imposer des choses aux gens. C'est mieux que de dire aux Français, regardez ces soignants qui ne veulent pas se faire vacciner comme ils sont lamentables.
C'est sur la table d'Emmanuel Macron.
Voilà.
Oui, campagne.
Qu'il le fasse alors. Oui. Qu'il le fasse et qu'il prenne enfin une décision courageuse, peut-être clivante, il va peut-être perdre 2-3%, mais au moins il aura pris la décision.
La communication, vous en parliez, elle est au cœur aussi évidemment de cette acceptation du vaccin. Ça a été malmené, on a dit les plus de 50 ans, les soignants les plus de 50 ans, donc les plus jeunes n'ont pas été concernés, ils étaient peut-être aussi plus réfractaires à se faire vacciner. Voilà, d'où la complexité aujourd'hui de leur reprocher des choses, parce que on a mal amené sur le sujet.
C'est vrai que ça a été mal, ça a été mal amené. Si on prend toute l'histoire, on se souvient de la première conférence de presse au mois de décembre d'Alain Fischer, qui a surtout mis en avant les effets secondaires ou les inconnus sur le vaccin. On avait parlé de communication à minima, et c'est vrai que de ce point de vue-là, on ne pourra ne pas dire qu'il y a eu un retard à l'allumage. Et je partage complètement la remarque ironique de Laetitia Krupa sur un spot télévision. Quand on voit toutes les capacités des pouvoirs publics à faire beaucoup de campagnes de communication, le retard, on l'a vu aussi sur la Convention citoyenne sur la vaccination, qui était une excellente idée, mais elle a été installée tellement tardivement qu'on a eu l'impression que le pouvoir se défaussait de ses responsabilités. Là, il y a une véritable course contre la montre. D'un côté, les variants sont partout, c'est 57% je crois des contaminations dans toute la France, c'est une information du Parisien de tout à l'heure. De l'autre, il y a ce vaccin qui va permettre peut-être de ralentir les effets et peut-être d'éviter le spectre d'un troisième reconfinement. Pour l'instant, les Français, même s'ils apprécient et soutiennent les confinements locaux, ont toujours dans un coin de leur tête une intériorisation sur un futur troisième confinement.
Oui, en fait, ce qui était intéressant à voir, et c'est, on va en sourire un petit peu, 2/3 des Français étaient pour les confinements locaux, mais quand il s'agit de leur région, il n'y a plus qu'un Français sur deux. Vous voyez donc, bon, on est pour le confinement du voisin, mais par contre, chez soi, voilà. Donc, mais non, mais c'est parce que l'accepter stabilité, qui est devenu un mot à la mode et qui aurait dû être le mot dès le début du débat, un mot fondamental, elle est en train de s'éroder, ce qui est tout à fait normal, ça fait un an. Donc il faut bien trouver des alternatives.
Oui, on a des mesures à la marge. Hein. Tout à l'heure, les quais de Seine ont été évacués, gentiment, tranquillement. Le préfet Didier Lallement avait prévenu et insisté sur la nécessité de ne pas se regrouper. Ce fut le cas. Voilà, merci pour le point qu'on pouvait faire ce soir sur cette opération coup de com'. Je voudrais, Philippe Moreau-Chevrolet, que vous partagiez un courrier, une mobilisation importante justement au cœur de ce débat sanitaire.
Oui, alors absolument. Alors, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans cette épidémie depuis le début, ce sont les victimes. On ne les voit pas parce que d'abord, on n'a pas pu les montrer, on ne peut pas filmer dans une unité Covid, c'est compliqué. Et puis aussi parce que c'est des morts qui partent très rapidement, au fond, en quelques jours. Ce n'est pas comme le sida, on avait finalement pu avoir des récits, pu avoir un certain délai entre la maladie et la mort. Là, c'est une maladie extraordinairement brutale et sauvage, donc on n'a pas tellement de récits, de visages, d'humanité. Alors, il y a des associations qui se mobilisent pour essayer d'en restituer et qui essayent de demander au président de la République qu'il y ait une journée qui se déroule pour les victimes du Covid. L'Élysée a l'air favorable à ce que ça soit mis en place, ce qui serait une très bonne chose. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de morts en ce moment et depuis le début que depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire que c'est la période où on a le plus de morts en ce moment, finalement. On est à 85 000, on va probablement aller vers 100 000, peut-être, évidemment, malheureusement, beaucoup plus. Donc, c'est Lionel Petitbas, avec son association, qui mène ce combat-là pour la journée de mémoriel.
Oui.
Et puis, on a une deuxième action qui est menée par l'association Après J20, qui, elle, concerne les Covid longs. Alors, les Covid longs, c'est la maladie chronique, c'est la longue durée. Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, ils ont estimé qu'il y aurait environ 1 million de personnes qui seraient durablement atteintes par des séquelles du virus. Alors, c'est pulmonaire, cardiaque, cérébral. C'est très, très invalidant. Ça peut vous empêcher de travailler. Donc, cette association-là, Après J20, complète l'association et l'action de Laurent Petitbas.
Ça progresse.
Et au fond, ça veut dire une chose. Ça veut dire que la maladie commence à s'implanter sur la durée. Donc, les victimes et les familles des victimes, qui sont énormément, de plus en plus nombreuses, malheureusement, commencent à s'organiser aussi pour demander une reconnaissance des pouvoirs publics, une journée spéciale. Et puis une prise en charge des médecins et du corps médical, et puis de l'État également, puisqu'il y aura évidemment des questions de responsabilité et d'indemnité.
Merci, on verra la réponse que donnera à cette envie de mobilisation, à cette journée de deuil national Emmanuel Macron dans les semaines qui viennent. Merci Philippe Moreau-Chevrolet. Alors Laetitia, vous avez vu, comme nous tous, comme beaucoup en tout cas, l'offensive télévisée de Nicolas Sarkozy, entre autres, elle vous fait réagir ce soir.
Je vais choisir une phrase, un moment, qui résume toute la prestation de Nicolas Sarkozy. Écoutez.
Mais si votre question, est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace, monsieur Sarkozy ? Je vous prends bien droit dans les yeux. Oui, monsieur Boulot. Et d'ailleurs, et vous ? Si vous n'aviez pas la conviction que j'étais un homme honnête, est-ce que vous me réserviez un train d'accueil à votre journal ? Est-ce que vous m'interrogez aujourd'hui comme vous le faites ? Je viens répondre à toutes les questions. Je n'ai rien à cacher.
Bon, c'est du Sarkozy tout craché, hein, on le connaît bien. Interpellation du journaliste, interpellation des Français, caractère offensif, légère approximation dans la syntaxe avec l'accord des verbes qui est un peu approximatif. Et un grand classique aussi, yeux dans les yeux, qui avait été joué par un autre accusé, Jérôme Cahuzat, et qui est maintenant inscrit dans le marbre de la communication de crise. Bon, très bien, mais je ne vais pas revenir sur le fond. Est-ce que, oui ou non, c'est une revanche des petits pois? Ou est-ce que, finalement, Nicolas Sarkozy a quand même commis un délit? Je voulais ce soir insister sur la méthode, sur l'exercice et poser la question de son efficacité. En gros, est-ce que, dans une com' de crise politique, le 20h est mort? Soit Nicolas Sarkozy est complètement old school. Il se dit que cette communication de crise des années 90, on va dire 2000, hein, est encore efficace. Finalement, il ne convainc au final que ses soutiens qui n'ont pas besoin d'être convaincus. Ou soit le JT, effectivement, reste encore une arme massive dans la communication de crise et permet de convaincre l'opinion publique. Pour les politiques, en tout cas, la réponse est faite, hein, puisqu'ils sont toujours aux 20h, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy. Tous. Et juste à noter que le soir même, il y avait quand même Carlos Ghosn hein, sur LCI. Donc, si vous voulez, l'opinion publique, soit les âmes critiques crient à l'impunité, à l'indécence des délinquants au col blanc, soit ils se disent que dans cette bataille, Nicolas Sarkozy, finalement, avec son interview au Figaro et son interview aux 20h, avait le dernier mot cette semaine, et c'est bien ce qui est important en ce moment.
Merci Laetitia. Oui, mais à qui parle-t-il et qui a-t-il convaincu?
Voilà, bah c'est vrai, il y a toujours un double regard sur Nicolas Sarkozy, même avec cette affaire. Il y a le regard de l'ensemble des Français qui reste plutôt sévère avec l'idée que les personnalités politiques sont plutôt bien traitées par la justice. On reste sur l'adage de La Fontaine, sinon qu'on soit puissant ou misérable. Et les seules personnes qui sont convaincues, ça reste le peuple de droite, ça reste les sympathisants LR qui s'inscrivent dans une logique de fan absolu à l'égard de Nicolas Sarkozy.
Donc le message de l'acharnement ne passe pas au-dessus.
Exactement, le message de la persécution, de l'acharnement. Et c'est en ça que ces interventions, aussi importantes soient-ils, restent d'un effet limité dans les logiques d'opinion.
Philippe Moreau-Chevrolet.
Alors moi, j'irai encore plus loin. Je pense que le fait d'arriver à 20h quand on est un homme politique impliqué dans une affaire vous désigne comme coupable. C'est-à-dire que les Français sont tellement habitués à voir des gens débarquer à 20h au TF1, au JT de TF1 pour se défendre, que ça finit par vous rendre suspect. Donc moi, je serais, si j'étais, pour pas parler mal français comme le disait Laetitia, si j'étais Nicolas Sarkozy, la prochaine fois, je suis un peu sarkoziste, la prochaine fois, je choisirai un format différent pour me défendre, pour gagner un petit peu en crédibilité. Parce que c'est devenu une figure tellement habituelle, tellement récurrente, que ça vous rend presque suspect.
En tout cas, il ne sera pas candidat en 2022. Hein, les choses sont dites clairement et nettement. Bah, ça vous fait rire, mais il y en avait beaucoup qui attendaient peut-être une éventuelle candidature avant le procès de Big Malion.
Mais ça, c'est le mythe de l'éternel retour de Nicolas Sarkozy.
Tout le monde espère son soutien.
Hein. C'est le mythe de l'éternel retour à droite de Nicolas Sarkozy,
et on entretenu en parlera demain.
Par lui-même, hein, certainement, et par ses proches, et par la base militante.
Oui. Alors, on en parlera demain. 10 secondes, Frédéric.
Non, mais là, sur cette question-là, il y a aussi un décalage entre les adhérents, la base militante et l'appareil LR qui n'est pas très heureux de se donner, entre guillemets, à une candidature qui s'impose de plus en plus, celle de Xavier Bertrand, et celle des sympathisants LR qui ont quand même largement tourné la page de Nicolas Sarkozy, même s'ils sont toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, fans et le voient comme une sorte de statue du commandeur.
La suite demain en feuilleton dans le débat des grandes voix. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet, merci Laetitia Krupa et Frédéric Dabi. À demain.